Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Avec Stéphanie Jiquel. Salut Stéphanie.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien, ouais, super. Oui.
Stéphanie, tu nous as envoyé un mail en fait et à la rédaction. Quand on l'a reçu, on l'a lu à voix haute. C'est un truc qu'on fait assez rarement. C'est-à-dire, regardez, on a quelqu'un qui est relativement zinzin dans sa façon d'appréhender les choses. Tu nous racontais dans ce mail que tu avais parcouru l'Antarctique en 74 jours. Tu as fait 2045, c'est ça, kilomètres? Donc tu as décidé de parcourir l'Antarctique comme ça, alors que vous étiez trois, c'est ça?
Ouais.
Par des températures qui vont autour de moins... En fait, tu dis, tu as fait un TED où tu dis, quand il fait moins 35, il fait bon, il fait limite chaud par rapport à quand il fait moins 50. Très bien. Et donc on s'est dit, il faut à tout prix qu'on rencontre cette personne sur Mademoiselle, en tout cas qu'on te présente à nos lectrices. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu d'où tu viens? Tu as un parcours relativement, on va dire, classique. Tu as fait une école de commerce, c'est ça?
Oui, j'ai fait une école de commerce, puis j'ai exercé la profession d'avocat, avocate d'affaires, donc spécialisée en fusion-acquisition, LBO, et puis en parallèle...
Un job de bureau plutôt.
Exactement, hein. Et en parallèle j'ai en fait une passion pour le sport d'endurance extrême, notamment l'ultra-trail, c'est-à-dire la course à pied sur longue distance. Je cours sur des distances de 180, 200 km en 24 heures, 30 heures. Alors parfois 50 ou 100 km, mais je préfère les distances très longues de 180, 200 km.
Wow.
Et j'ai aussi une passion pour les régions polaires. En fait, ces régions m'attirent depuis une dizaine d'années. J'aime énormément le froid, la blancheur, les déserts. Et donc, j'ai fait plusieurs expéditions et j'ai un jour notamment décidé de traverser l'Antarctique sur 2045 km via le pôle Sud. Et c'est à ce jour la plus longue expédition réalisée sur ce continent sans voile de traction par une femme. Mais au-delà de l'espoir, je voulais vraiment parcourir ce continent pour voir ce qu'il y avait au-delà des récits que j'avais pu lire. Ça ne me suffisait plus et j'avais vraiment besoin d'aller là-bas. Donc j'ai eu une idée complètement folle. Au début, ça m'a paru fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Sauf que c'est une idée qui m'a plus lâchée. Et j'y pensais tout le temps, j'étais vraiment obsédée par cette idée. Et donc un jour je me suis dit, ben, j'y vais, j'ai préparé, il m'a fallu 3 ans, parce que j'ai une activité professionnelle à côté d'avocate qui est très prenante. Donc je préparais le soir, je préparais le week-end, je m'entraînais dans des entrepôts frigorifiques par exemple.
Oui, voilà, tu prépares comment en fait? Comment tu fais pour préparer?
J'ai tracté des roues sur le sable, donc ça je le fais encore quand je pars en expédition. Parce que
pour
je pars,
tracter
je...
ton
Voilà, pour tracter
ton
mon traîneau, exactement. Mmh. Donc le meilleur entraînement, c'est de tracter des roues sur le sable. C'est l'entraînement qui est le plus idéal. Après, on peut aussi tracter des poulkas, donc ce sont ces traîneaux dans le Vercors, mais c'est un tout petit peu plus facile que traîner des roues soit dans les bois, en forêt, soit sur le sable. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, donc c'est l'entraînement que j'ai préféré. Et puis après, j'ai fait des entraînements en entrepôt frigorifique. Il faut savoir qu'en entrepôt frigorifique, il fait moins 25. En expédition au pôle Nord, quand on y va en avril, il fait moins 35, moins 40. En Antarctique, j'ai eu des températures jusqu'à moins 50 degrés pendant 10 jours. Donc là, pour le coup, c'est pas possible de s'entraîner parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a de telles températures. Donc, du coup, j'ai découvert aussi sur place. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert sur place. J'ai visualisé énormément en amont en lisant des récits d'expédition, en rencontrant des personnes qui avaient parcouru l'Antarctique avant moi. Mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on découvre sur place parce que c'est un continent qui est extrême, avec des conditions qui sont extrêmes. Il y fait très froid, c'est très venté. J'ai eu du vent de face jusqu'à 80 km/h jusqu'au pôle sud, ça veut dire pendant 40 jours, un vent qui me repoussait sans cesse et qui m'empêchait en fait d'avancer à un rythme plutôt convenable. Donc ça a été assez extrême et donc il faut se préparer énormément. Donc il y a une préparation physique qui est assez importante à base d'ultra trail, de courses dans des entrepôts frigorifiques, de traction de pneus sur le sable.
Mais
en Bretagne. En fait, j'adore le sport. C'est quoi ton moteur? J'adore le sport d'endurance. J'adore l'endurance. Alors, j'aime énormément le sport extrême, mais plus l'endurance que les sports d'adrénaline.
Comment t'en es venu à... Parce que j'imagine qu'on décide pas du jour au lendemain de se dire, tiens, je vais courir des courses de 150 bornes. Il y a un moment donné où tu as décidé. Enfin, t'as démarré comment, en fait? Déjà, tu t'es mise au jogging un jour, c'est ça,
oui,
j'imagine?
Oui, c'est ça. Alors, ça, c'était il y a très longtemps. Pour le coup, je courais déjà quand j'étais au lycée, au collège. Bon, avant, j'étais sur d'autres sports, toute petite, sur la danse, le roller, enfin, des choses qui n'ont rien à voir. Beaucoup plus fun, en fait, parce qu'entre nos enfants, on cherche des choses assez fun. Et puis après, je me suis mis à la course à pied. Un jour, je me suis dit, je vais faire un semi. Après, je me suis dit, je veux voir ce qu'il y a au-delà, donc un marathon. Ensuite, un 80 km. Un 100 km, à chaque fois j'avais l'impression que ces distances-là étaient impossibles, c'est-à-dire qu'avant de m'y mettre, je me disais, mais vu ce que l'on ressent sur un marathon, j'imagine qu'on va ressentir un mur en puissance 10 sur un 80 km. J'ignorais en fait ce que le corps ressent, et c'est ça aussi qui m'a passionnée, c'est d'aller voir ce qu'il y avait au-delà et d'avoir des sensations que je ne connaissais pas et qui m'intriguaient. Mais il faut dire aussi que parce que j'ai trouvé du plaisir dans l'endurance, c'est-à-dire que je ne m'ennuie pas quand je cours. Et donc j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait au-delà et j'ai choisi d'aller voir ce qu'il y a au-delà en termes de distance et pas de vitesse. Et aujourd'hui je suis sur la vitesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'arrive à parcourir 200 km en courant et en m'arrêtant uniquement au ravito, c'est-à-dire tous les 20 km. Et j'arrive à gérer ma course de façon à pouvoir courir tout le temps sans marcher. Mais,
tu cours combien de temps en fait?
Alors je cours 24 heures, 30 heures.
Okay.
Et donc je m'arrête.
Tu dors pas?
Non, je dors pas. Et donc il y a des ravitaux tous les 20 km, des ravitaillements. Donc c'est organisé par la course, donc par l'organisation de course. Donc on trouve sur des tables la nourriture et on peut se ravitailler.
Tu t'arrêtes combien de temps?
Et donc je m'arrête 5 minutes, 10 minutes.
Okay.
Ça dépend. En milieu de course, je m'arrête un peu plus longtemps, 10 minutes si je veux changer un vêtement par exemple. Sinon, au bout de 20 km, 40 km, là je m'arrête que 5 minutes. Souvent, je continue à manger en marchant et de façon après à repartir, enfin à courir plus vite. Donc pendant longtemps, j'ai cherché la distance et maintenant je cherche la vitesse parce que j'ai vu ce que ça faisait de parcourir 200 km. Et donc maintenant, j'ai envie d'aller plus vite, voilà, donc de me concentrer sur la performance en termes de vitesse. Voilà. Et donc, il faut savoir que ma passion, c'est vraiment la course à pied. Mais j'aime énormément les régions polaires. Les régions polaires, on ne peut pas forcément les parcourir en courant. Il y a des endroits, en tout cas pour l'Antarctique, c'est compliqué de le faire en courant. Donc, quand ce n'est pas possible de le faire en courant, j'utilise les skis de randonnée. Et c'était le cas notamment quand j'ai traversé l'Antarctique sur 2045 km. Et j'ai fait le choix du ski de randonnée plutôt que du kite, parce que la plupart des aventuriers en Antarctique utilisent une voile de traction et font du kite-ski. C'est un peu comme le kite-surf, sauf que c'est sur la neige. Pour aller plus vite tout simplement et pour découvrir plus du continent. Typiquement au Groenland ou en Antarctique, c'est très fun d'utiliser le kite hein, de façon à pouvoir parcourir 3000 ou 4000 km. Et moi j'ai voulu retrouver en fait en Antarctique ce que j'éprouve lors d'une course d'ultra trail, c'est-à-dire la lenteur et donc un rapport au temps et à l'espace qui est très spécifique et que l'on peut ressentir que quand on va très lentement. On appréhende l'espace, on fait corps avec la nature parce que justement on va lentement à travers cet espace, enfin à travers ce décor. Typiquement en Antarctique, je faisais du 2,5-3 km/h,
oui.
Ce qui est très lent, puisque je tractais une poulka qui était plus lourde que mon poids de corps. Avec le vent de face, il y a des vagues de glace qu'il faut franchir les unes après les autres. Souvent, on risque de casser les skis. Voilà.
C'est ça, c'est que tu expliques dans ton tête, notamment, qu'il y a les 400 premiers kilomètres où tu n'as que des vagues de glace quasiment,
ouais.
Et qu'il faut donc passer de ces vagues de glace. Et donc, ta poulka, comme tu dis, tombe toutes les 3 minutes, en fait, c'est ça?
Oui, alors ça, c'était relativement pénible, parce qu'effectivement, la poulka se renverse, elle tombe entre les vagues de glace, et donc il faut se retourner, il faut la relever, mais il faut savoir qu'on est très couvert, que l'on a les mains qui sont prises dans des gants, qui sont fixés sur les bâtons, donc à chaque fois, il y a toute des manipulations à faire qui font qu'on va encore plus lentement. C'est assez pénible, et en même temps, il ne faut pas transpirer, parce qu'on peut, à moins 25 degrés, par exemple, on peut transpirer si on porte 3 coups. Et si on transpire lorsque l'on s'arrête à la pause suivante, c'est très désagréable parce que la transpiration se transforme en glace.
Mmh.
Et là, c'est inconfortable. C'est pas le même froid que celui que l'on ressent à moins 50. À moins 50 sec, quand on porte 4 couches de vêtements, on est en situation de survie parce qu'il fait vraiment très très froid et on sent cet instinct de survie, on a envie de survivre. Et donc on va très très vite, on skie très très vite, même si on est en hypoglycémie, même si on a faim, on skie de plus en plus vite parce que c'est le seul moyen de se réchauffer. Il faut savoir que sur une expédition, expéditions polaires. On n'est pas équipé comme lorsque l'on fait des missions scientifiques où on va porter beaucoup de couches de vêtements, notamment des doudounes. C'est le cas aussi lorsque l'on fait l'ascension de l'Everest, par exemple, on porte des doudounes assez chaudes. Quand on fait du ski de randonnée nordique, c'est pas le cas. On porte des vêtements qui sont assez légers, donc il faut en mettre un tout petit peu plus quand il fait moins 50 degrés. Mais en même temps, on n'en prend pas trop dans sa poulka parce que sinon c'est trop lourd. Donc là, ça faisait 4 couches de vêtements au maximum, et 4 couches, c'est relativement peu quand il fait moins 50 degrés, et donc on est obligé de courir, entre guillemets, parce que c'est du 4 km/h, ça va être quand même lent.
Mais ce qui est fou, c'est que tu dis qu'à moins 50, tu es en situation de survie, et à moins 35, ça va.
Alors, moins 35 après du moins 50, on est super bien, parce que pour le coup, on a eu tellement froid, on s'est senti tellement mal.
Mais moins 35, c'est extrêmement froid.
Alors, moins 35, c'est froid.
D'ailleurs, mais c'est pas froid au point que ton corps est en train de...
Non, c'est pas froid au point d'être en situation de survie après de nombreuses semaines sur le terrain. Il faut savoir que en Antarctique, j'ai passé 3 mois donc dans des températures très négatives, et j'y ai passé tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun abri. Donc, même quand on est sous tente, on est quand même toujours dehors. Donc, le corps finit par s'habituer, la température corporelle diminue. Et donc, quand il fait moins 35 après un moins 50, on est plutôt bien. Et le risque, d'ailleurs, c'est de se découvrir beaucoup trop et puis d'avoir une gelure, notamment sur le visage, parce qu'on a l'impression du coup qu'il fait chaud, et donc on peut avoir tendance à enlever toutes ces protections, et c'est là qu'on peut avoir une gelure. Alors qu'à moins 50, a priori, on n'a pas de gelure, parce que là, on sait qu'on est en situation de survie, et on fait très très attention. Après, le moins 25, là, pour le coup, après du moins 50, là, c'est limite chaud, en fait.
Waouh. Et donc, t'es partie en couple? C'est ça, parce
alors que mon mari fait partie de toutes mes expéditions. C'est vrai que c'est quelque chose, je monte les expéditions avec lui, et il part toujours en expédition avec moi. Mais par contre, lui...
Vous êtes rencontrés pendant tes études, c'est ça?
On s'est rencontrés pendant les études. Lui, par contre, est très pris par son activité professionnelle. Donc aujourd'hui, je partage sur l'Antarctique, sur le dépassement de soi, notamment en entreprise, dans les écoles. Je le fais seul, mais en tout cas, il est souvent derrière moi, et en tout cas, en expédition, il est avec moi. Et on partage cette passion, on en parle souvent, on peut s'entraîner la plupart du temps ensemble, alors pas en semaine, mais plutôt le week-end. Et voilà, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez énorme de l'avoir vécu aussi avec lui, parce que bien souvent, quand on vit quelque chose de très fort et très bouleversant...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Que peu de personnes ont vécu, on a du mal à transmettre, même si c'est mon souhait de transmettre au maximum de personnes, notamment sur le dépassement de soi, et dire que rien n'est impossible et qu'il faut vraiment réaliser ses rêves, parce que beaucoup de choses sont possibles, il faut juste y croire et il faut en être convaincu. Mais c'est vrai que parfois, ce qui est compliqué, c'est de raconter et de rendre compte de tout ce que l'on peut ressentir dans une expérience qui est bouleversante, et notamment rendre compte auprès de personnes qui ne l'ont pas vécu. Mmh. Et donc parfois, on peut en parler ensemble et tout de suite, il comprend ce que l'on a vécu à tel ou tel moment. Parfois, on peut même pleurer ensemble sur tel ou tel moment, ou être au contraire très, très content, et on ressent beaucoup de choses. Et je sais que ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir souvent après des expéditions, les aventuriers en parlent souvent, les alpinistes aussi, je le ressens peut-être un peu moins, parce que justement je partage ma vie avec quelqu'un qui a vécu aussi ces expéditions-là.
Et tu disais que ça te prenait, cette expédition t'avait pris tellement de temps que sans doute ton couple n'aurait pas survécu si tu avais, s'il n'avait pas été dans cette expédition avec toi, quoi.
Oui, alors c'est vrai que je l'ai préparé pendant 3 ans, et pendant 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire je termine mon travail. Des fois, quand on est avocat, on termine très tard. On peut terminer à 22h, à minuit. Parfois, on peut rentrer chez soi en pleine nuit. Donc là, évidemment, on ne peut pas travailler sur l'expédition à ce moment-là. Quand on finit vers 21h, 22h, on peut s'entraîner après. Donc on va courir, on trouve des partenaires, on monte un site internet, on construit construit toute la logistique de l'expédition. Tout cela, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été dans ce projet, on se serait éloigné parce que j'aurais été accaparée par quelque chose qui l'aurait peut-être moins concerné. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, la plupart des aventuriers partent seuls ou en tout cas pas avec leur conjoint. Mmh. Et j'avoue que ça doit être quelque chose d'assez difficile. Alors après, il est possible pour eux de s'impliquer autrement. Et généralement, en matière de logistique, ils sont très très présents. Mais bon, après, c'est vrai que c'est encore mieux quand la personne est impliquée au point de venir sur le terrain avec soi, parce que du coup, on a aussi des entraînements ensemble et les entraînements représentent beaucoup d'heures. Quand je m'entraînais par exemple en entrepôt frigorifique, ça représentait 5 à 6 heures le samedi matin. Donc c'est vraiment beaucoup de temps dans une vie qui est déjà très bien remplie.
Et donc aujourd'hui, tu t'es arrêtée, c'est ça, de ton activité d'avocate ou tu...
Alors pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses. Ouais. Je sais que j'y retournerai parce que aussi quelque chose qui est très fort dans ce que j'ai vécu, c'est que je me rends compte depuis cette expérience, avec d'autres expériences aussi, mais encore plus après celle-là, qu'en réalité, ce que l'on vit dans la vie quotidienne est absolument extraordinaire et qu'il y a de très belles aventures à vivre aussi en entreprise et dans la vie de tous les jours à Paris. Et c'est pourquoi je tiens vraiment à ma vie à Paris, parce qu'il y a énormément de choses à vivre aussi ici. Et ce que j'aime avant tout, c'est le changement, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'une vie monotone où je ne ferai que de l'aventure polaire. J'ai au contraire envie d'essayer tout plein de choses. Et je sais que dans la vie d'avocat ou la vie des affaires, on vit aussi de très belles choses. Et donc voilà, j'ai très très envie, une fois que j'aurai terminé ma mission de partage, parce que je sens que aujourd'hui on est très peu d'ambassadeurs de l'Antarctique, on est très très peu à représenter ce continent, on n'est que 35 à avoir réalisé une traversée de l'Antarctique, donc on est très peu à pouvoir en parler. Et une fois que j'aurai fini cette mission de partage, ou qu'en tout cas je n'y trouverai plus aucun plaisir, je passerai certainement à autre chose et d'autres expéditions, mais aussi une vie d'entreprise. J'ai très envie d'y retourner aussi.
Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin. Si loin. Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe.
Parce que pour simplifier la tâche, en plus, vous avez fait un film. C'est-à-dire que vous avez plus de 50 heures, vous êtes revenu avec plus de 50 heures de rush de ces 74 jours.
Ouais.
Et dans le teaser de ton film que vous avez fait produire, enfin crowd-produire, on va dire, tu poses une question, en fait, c'est qu'est-ce qui pousse les hommes à s'engager parfois au-delà de la raison? Et je me disais, mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, en fait, à t'engager au-delà de cette... Donc on renverra vers ton TED où tu racontes tout ça très bien. Y a un moment donné où c'est quoi ton objectif de, t'es dans le dépassement, c'est ça, à ce moment-là, de toi?
Ouais, alors effectivement, donc dans le film, je pose cette question. C'est vrai que le film a été une aventure en soi. C'était un des objectifs principaux de l'expédition, de pouvoir rapporter des images d'un continent qui est peu connu et pouvoir monter un film. Alors, c'était une véritable aventure puisque c'est mon premier film, donc je l'ai monté et réalisé. J'ai du coup approché un milieu que je ne connaissais absolument pas, qui est aussi fascinant au final que les expéditions polaires, les expéditions sportives. Donc j'ai dû choisir un axe de réalisation. C'est très très compliqué parce que 50 heures de rush, après il faut arriver à le monter, donc au final ça fait un film de 30 minutes. Et là, ce que j'ai choisi, c'est que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons et qu'il faut à tout prix réaliser ses rêves. Et c'est vrai que je pose en question tout au long du film le sens des choses. Et en réalité, j'ai eu une envie et j'y suis allée. Et je pense qu'il faut, on se pose beaucoup plus la question vis-à-vis de démarches qui sont atypiques. Et finalement, on se pose plus de questions dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on vit une vie sans se poser de questions pourquoi je fais ci ou pourquoi je fais cela, et on se pose la question par rapport à des chemins, enfin des voies qui sont atypiques, des personnes qui réalisent des choses qui sont différentes. Et en réalité, on devrait tous se poser la question. Et je pense que j'ai eu une envie... c'est difficile d'expliquer pourquoi l'Antarctique m'attire. Elle m'attire énormément, tout comme les premiers explorateurs du début du XXe siècle. Dès qu'ils rentraient de ces expéditions polaires, ils n'avaient qu'une envie, c'est retourner là-bas. Et Jean-Baptiste Charcot le disait très bien, il n'avait qu'une envie, c'est retourner en Antarctique. Et pourtant, il a vécu là-bas des souffrances physiques et morales. Et il les oublie dès qu'il rentre. Il n'a qu'une envie, c'est retourner sur ce continent. Et moi, j'ai ressenti la même chose. C'est une attirance, une attraction qui est très forte. J'ai l'impression même aujourd'hui de venir plus de ce continent que de chez moi. Donc c'est quelque chose que j'ai très fortement en moi. Après, je me suis sentie bien là-bas. Et du coup, j'ai juste répondu à un moment donné à une envie de découvrir un peu plus ce continent. Et les livres ne me suffisaient pas. Et je suis convaincue aussi d'une chose, c'est que rien ne remplace l'expérience. Les livres, les expériences, ce que l'on peut vous raconter, c'est fascinant. Mais quand on le vit, quand on se trompe, quand on tombe, qu'on recommence, qu'on essaye, qu'on tente, là, c'est extraordinaire parce qu'on comprend mieux, on grandit. Et j'ai l'impression d'avoir acquis beaucoup plus de maturité parce que je suis allée là-bas, et tout ce que j'ai acquis aujourd'hui, je l'aurais pas si j'avais pas essayé, si j'avais pas vu ce continent antarctique. Donc voilà, c'est aussi, je pense, un goût de la vie, une passion de la vie qui est très forte, une passion du changement, l'envie aussi de voir des domaines qui sont dont on parle peu et que l'on ne connaît pas, et une passion de la vie. Je pense que c'est ça qui me guide. Je pense qu'au-delà de l'audace et du courage, je pense que pour aller dans ces contrées, il faut aussi être émerveillé. Et aujourd'hui, je pense que je le suis encore plus, c'est-à-dire même à Paris, tout m'émerveille. Je trouve fascinant tout ce que l'homme a construit, et il y a énormément d'informations, plein de détails, et je vois la vie vraiment avec beaucoup d'émerveillement et beaucoup de curiosité. Je pense que c'est ça qui m'a poussée aussi à aller là-bas. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure de ce fameux mur que tu pouvais rencontrer quand tu as fait ton premier marathon, où tu t'es dit je veux aller au-delà et aller. C'est quoi la suite pour toi? C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller plus vite, de refaire une autre expédition en disant je vais mettre 5 jours de moins, ou c'est quoi tes projets, tes futurs projets fous? En fait,
j'ai des projets j'ai des projets dont je peux pas encore parler, c'est un peu tôt. Mais j'ai déjà des envies, notamment traverser des pays en courant. Ça, c'est quelque chose qui me tente. Aujourd'hui, je traverse des régions de France en courant, notamment pour m'entraîner à des ultra-trails. Je pars mi-mai pour traverser le GR 653A d'Aix-en-Provence à Menton. Donc, c'est 300 km. Mais j'envisage un jour de traverser, par exemple, les États-Unis ou l'Australie en courant. Donc là, ce serait sur plusieurs semaines. Oui. Ça, c'est
tu
quelque
vas
chose
dormir entre deux, là, j'espère.
Alors là, je vais dormir, oui, pour le coup.
Même sur 300 bornes, ça fait combien de
temps ? Oui, là, je dors aussi. En fait, l'idée, c'est de fractionner la distance de manière à pouvoir ensuite, en compétition, être beaucoup plus à l'aise quand il faut le faire d'une traite sans dormir. Donc, l'entraînement idéal, c'est partir sur 200-300 km un mois avant. On fractionne la distance, donc on se repose tous les soirs. Et le jour J, donc un mois après, en compétition, on est impeccable parce qu'on a dans les jambes la distance, mais il suffit juste de le refaire, mais sans dormir.
Il suffit juste.
Voilà.
Ok, très bien. Et donc, ton objectif, ça serait de...
Alors, voilà, il y a ça. Et puis ensuite, j'ai en tête d'aller voir d'autres contrées, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait, je dirais pas le tour des régions polaires, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir. J'ai découvert le Groenland, le Spitzberg. J'ai pour projet aussi d'aller en Alaska. Je rêverais aussi de la Sibérie. Je suis allée au pôle Nord géographique. J'y ai couru un marathon aussi autour du pôle Nord, donc vraiment au point qui représente le pôle Nord géographique. Je suis allée à Antarctique, au pôle Sud, à plusieurs reprises en Antarctique. Donc j'ai une bonne connaissance aujourd'hui des régions polaires. Ça fait 10 ans que je les pratique. Et c'est vrai que la vie étant très courte, j'ai aussi envie de découvrir d'autres régions, parce que je trouve que ce serait dommage de rester que dans ces régions, même si je reconnais que le fait de les connaître me donne aujourd'hui une expérience qui fait que il y a toutes des années de connaissances qui font que je peux aller plus vite. Maintenant, si je réalise une expédition polaire, je sais exactement quels sont les équipements à prendre, comment monter la logistique.
C'est un peu moins drôle, c'est ça ?
Alors, c'est un peu moins drôle, mais en même temps, l'expérience fait que je peux aller plus vite, et donc en matière d'aventure, c'est bien aussi de travailler sur l'acquis. Enfin, en tout cas, c'est ce que font beaucoup d'aventuriers, travailler sur l'acquis pour pouvoir repartir de manière plus facile. Maintenant, j'ai aussi envie, je pense, de me lancer dans de nouveaux projets où je vais de nouveau avoir à réapprendre, à acquérir la connaissance d'un environnement. Et ça, ça me plaît aussi beaucoup, même si c'est un peu moins efficace, évidemment, puisqu'il faut repartir de zéro.
Stéphanie, merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé avec
toi.
On va linker toutes les choses qui sont intéressantes. Tu as notamment un site internet où tu expliques tout le projet Across Antarctica, et puis ton TED, etc. Et puis voilà, on te souhaite, en tout cas, on suivra avec grand plaisir. N'hésite pas à nous envoyer quand tu as des nouveautés. On suivra avec grand plaisir ton actualité sur Mademoiselle.
Merci
beaucoup. À bientôt.
Bonne journée, merci.
Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.